Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Des prospections d'hydrocarbures accompagnées par des navires de guerre dans des zones contestées, des manœuvres rivales entre forces navales, turques d'un côté et grecques avec la France et l'Italie de l'autre, des déclarations martiales, des menaces de sanctions et des achats d'armements français par la Grèce. La Méditerranée orientale est le théâtre ces dernières semaines d'un nouvel épisode d'une rivalité gréco-turque qui dure depuis très longtemps. L'Europe, présidée par l'Allemagne actuellement et l'OTAN, dont la Turquie fait partie, appelle à la désescalade pour éviter que tout cela dérape au-delà des postures. Tension en Méditerranée orientale jusqu'où ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui dans notre studio. Il y a le général Jean-Paul Paloméros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien commandeur suprême de l'OTAN, c'est-à-dire que vous étiez chargé des questions doctrinales et de transformation, de préparation de l'avenir de l'Alliance Atlantique.
C'est ça.
Et également Didier Billon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et auteur notamment de Géopolitique des Mondes Arabes aux éditions Erol. Et par téléphone, l'amiral Pascal Hausser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Je le disais, les montées de tensions entre la Grèce et la Turquie sont anciennes. En fait, cela fait un siècle que ça dure, depuis la fin de l'Empire Ottoman et même peut-être au-delà. Il y a un conflit maritime non réglé. Didier Billon, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, il est à plusieurs niveaux. Ce dont on entend beaucoup parler au cours des dernières semaines, c'est la question de la zone économique exclusive et la délimitation des eaux territoriales. C'est un vieux problème. J'ai retrouvé récemment un discours de l'ancien premier ministre turc Turgut Özal, qui était considéré comme un modéré par les Européens et qui déclarait dans le journal Le Monde en mars 1987 « Si les Grecs affleurent un seul de nos bateaux, ce sera la guerre » dans les colonnes du Monde. Donc on voit que cette question est assez ancienne. Mais bien évidemment, elle a été aggravée et amplifié ces dernières années par la découverte de gisements de gaz offshore qui, évidemment, aiguisent les appétits. La question qui se pose au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, avec acuité et de façon assez préoccupante, c'est le fait qu'évidemment les Grecs revendiquent la possibilité d'opérer des sondages, de la prospection sous-marine pour trouver du gaz offshore, et qu'ils en ont d'ailleurs trouvé un certain nombre de gisements, et que les Turcs, pour leur part, parce qu'il n'y a pas d'accord aujourd'hui fixé dans le marbre, contestent la possibilité aux Grecs de prospecter trop auprès de leur côte. Donc cette question, elle est infiniment compliquée, et j'insiste sur le fait qu'elle s'étend dans la durée, comme vous le rappeliez dans votre introduction. Donc, bien sûr, les tensions aujourd'hui sont infiniment préoccupantes, on n'est pas à l'abri d'un dérapage, même si pour ma part, je ne crois pas à une conflagration militaire générale, en tout cas, on peut le souhaiter et l'espérer. Pour autant, parce que ce conflit s'inscrit dans la durée, il est difficile de trouver un compromis. Mais seule la voie diplomatique, la voie de la médiation, pourra permettre de surmonter ces contentieux, ces différends qui existent entre les deux principaux protagonistes.
Amiral Pascal Hausser, la situation et la tension, est-ce que tout ça, ça a déjà dérapé dans les dernières dizaines d'années ? Et jusqu'où est-ce que c'est déjà allé ?
Jusqu'à présent, et là je rejoins tout à fait ce que vient de dire Didier Billon, les choses ont toujours été contrôlées. Et le facteur nouveau, à mon avis, aujourd'hui, c'est bien sûr le fait qu'on ait trouvé du gaz, et donc ça remet un peu plus d'enjeux dans cette rivalité centenaire entre les Grecs et les Turcs et Chypre, en troisième larron, pour le partage des eaux de la Méditerranée orientale. Mais moi, je crois qu'il y a un environnement qui a complètement changé, et ça, c'est une nouvelle donne. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde de tensions. Et la Méditerranée concentre ces tensions. Alors, de façon structurelle, parce que elle sépare deux rives qui sont très divergentes, hein, lorsqu'on prend les cartes économiques, démographiques, de développement, de droits de l'homme, d'environnement, etc., elles se superposent toutes, et on a une vraie différence qui génère une tension entre le Nord et le Sud, mais également au sein du Sud, parce qu'il y a des frustrations très fortes qui doivent être canalisées. Et puis, deuxième facteur, on entre dans un monde qui est de plus en plus dérégulé, Et la Méditerranée, c'est une ère de jeu géopolitique entre les puissances. Et ça, c'est relativement nouveau. Jusqu'à présent, les États-Unis étaient les maîtres du jeu et finalement calmaient leurs petits alliés méditerranéens lorsque ils avaient un coup de chaud. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les États-Unis sont moins présents, les Russes le sont plus, les Chinois arrivent, les monarchies du Golfe sont de plus en plus présentes et les Turcs jouent une carte avec des latitudes qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Et ça, je pense que c'est un facteur qui doit nous préoccuper. Je ne crois pas qu'on soit dans, finalement, l'éternel retour des tensions régulières entre ces deux pays. Je pense que c'est le cas, bien sûr, mais qu'aujourd'hui, l'environnement nous impose, à nous, Européens, et nous, Français, d'être plus prudents, plus vigilants. Et la posture turque aujourd'hui est un peu différente de celle, des prédécesseurs d'Erdogan, parce que l'environnement a changé.
Oui, général Jean-Paul Paloméros, vous êtes d'accord avec cette analyse? Il y a ce substrat turco-grec traditionnel, mais l'environnement fait que ça rend les choses encore un petit peu plus instables?
Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ces deux analyses. Il est clair que l'instabilité marque notre temps, l'instabilité des économiques, l'instabilité des menaces, les problèmes d'immigration qui pèsent lourdement sur les relations aujourd'hui, et Dieu sait si la Turquie à la fois a su accueillir de nombreux immigrants, très nombreux immigrants, mais aussi c'est entre guillemets en jouet aujourd'hui et menace l'Union européenne et en premier lieu la Grèce. Je crois que on est vraiment dans un monde en plein mouvement. L'attitude de la Turquie vis-à-vis de la Libye est très intéressante. Le soutien au gouvernement national libyen est pas dénué d'intérêt. Que se passe-t-il? C'est effectivement, en fait, c'est ce partage des biens communs. Et ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, quand la Turquie et la Grèce ont rejoint l'OTAN, très rapidement d'ailleurs, après la création de l'OTAN, en 1952, ça a été marqué par, effectivement, une volonté à la fois de sécurité, c'est-à-dire les mettre en dehors du rideau de fer, à l'extérieur du rideau de fer, mais aussi des questions économiques avec le plan Marshall. Aujourd'hui, si vous voulez, ces intérêts divergent. Et ils divergent profondément. C'est ça qui est inquiétant. Je crois que l'OTAN a son rôle à jouer, mais l'OTAN a aussi raté quelque part un virage lors de son 70e anniversaire, parce que c'était le moment où il fallait peut-être raviver la flamme en quelque sorte et redonner aux alliés un sens commun et du bien commun.
Oui. Didier Billon, vous voulez réagir là-dessus? La Turquie et la Grèce sont membres de l'OTAN. L'OTAN qui, Emmanuel Macron le disait à sa façon il y a quelques mois, ne va pas très bien. C'est ça qui rend la situation plus délicate?
Il avait dit pire que ça. Je vous laisse le dire. En état de mort cérébrale, ce qui au passage lui avait valu quelques temps plus tard une réponse assez cinglante de Erdogan, disant que c'était plutôt lui, Macron, qui était en état de mort cérébrale, ce qui n'était pas très courtois. Mais tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être évoqué et expliqué, d'autant qu'aujourd'hui, nous avons évoqué la question des deux principaux protagonistes, mais que la question du gaz en Méditerranée orientale, elle concerne d'autres acteurs. Je pense notamment à l'Égypte, je pense notamment au Liban, je pense notamment à Israël. Et puis, il y a un pipeline qui va être construit, EastMed, auquel les Italiens sont partis. Donc, on voit qu'il y a un ensemble de facteurs qui interagissent. Et ce qui est important, je crois, c'est d'essayer de replacer ce contexte dans le mouvement des recompositions géopolitiques qui sont en train de se décliner au Moyen-Orient. On voit très bien aujourd'hui, alors on l'a vu il y a deux jours à Washington notamment, avec la signature d'accord entre les Émirats Arabes Unis,
Bahreïn
et Israël, sous l'égide des États-Unis, eh bien on retrouve presque les mêmes protagonistes. Je mets Bahreïn à part, mais les Émirats aussi sont partis à ce jeu compliqué en Méditerranée orientale, bien qu'ils ne possèdent évidemment pas de côte qui donne sur la Méditerranée. Et la Turquie, en tout cas, c'est ce qu'expliquent les Turcs, et avec quelques exagérations, mais on le voit dans la presse turque, en disant « cette recomposition géopolitique se fait contre nous ». On sait très bien qu'il y a des bisbilles assez importants entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, entre la Turquie et les Émirats, entre la Turquie et l'Égypte et Israël. Donc, ces quatre pays qui sont en train, non pas de s'allier, je pense que le mot serait trop fort, mais qui sont en train de constituer un partenariat, les Turcs pensent que c'est pour les isoler. En réalité, je crois qu'il y a beaucoup d'exagération et que si ce partenariat existe, c'est plutôt contre l'Iran. Mmh. Mais pour autant, les perceptions géopolitiques sont très importantes.
Général Jean-Paul Paloméros, la Turquie profite d'un certain flou, d'un certain manque de cohésion et, on le disait, d'une forme de désengagement occidental et américain, pour ne pas le nommer, dans la région. Est-ce qu'il y a une place à prendre ?
En tout cas, la Turquie, elle la revendique, cette place. Elle est à une charnière, elle l'a toujours été. C'est vrai que autant il y a encore 10, 15, 20 ans, l'engagement de la Turquie au profit de l'Alliance Atlantique était vraiment un engagement sans faille au plan politique, au plan militaire. Cet engagement primait en quelque sorte sur le reste. La recomposition qui vient d'être évoquée bouscule l'Alliance Atlantique. On pourra en reparler plus profondément parce que l'Alliance Atlantique est à un tournant quand même de son existence pour différentes raisons. Et la Turquie essaye de profiter en quelque sorte de sa position parce qu'elle sait que quelque part elle est indispensable à l'Alliance Atlantique. Mmh. Et donc elle pousse le bouchon, si vous m'excusez l'expression. Mmh. Elle l'a toujours fait un peu. Mais ça restait quand même dans les limites de l'acceptable.
Elle teste les choses et les limites, quoi, tout simplement.
Elle les teste très sérieusement. Mmh. Et on a vu quand même que, par exemple, l'achat de systèmes de défense solaire à la Russie...
Les missiles S-400.
Les missiles S-400 va strictement à l'encontre de la cohésion de l'OTAN, qui est une alliance défensive et qui, par définition, ne peut pas dépendre de l'approvisionnement de moyens étrangers à l'alliance.
Amiral Pascal Hausseur, je voulais vous poser une question à vous qui êtes donc un soldat de la mer. Quel est l'équilibre des forces dans la région d'un point de vue naval ?
Alors, si vous permettez, je voudrais revenir quand même à
alors, deux réagissez points d'abord, précédents. Oui.
Voilà. Le premier, Erdogan pousse ses pions. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il n'a pas eu beaucoup d'opposition face à lui, finalement, à part Poutine, lorsque il y a eu cette histoire du Sukhoi 24 qu'ils ont descendu par erreur et que Poutine a imposé par un embargo à Erdogan de venir en quelque sorte à Canossa 8 mois plus tard à Moscou, et ils se sont mis d'accord sur une posture en Syrie, et ça a mené aux accords d'Astana. Mais finalement, à part cette opposition très forte de Vladimir Poutine, il n'y a pas eu du côté européen et du côté américain une vraie, véritable opposition. Et on le voit, les prospections turcs autour de Chypre d'abord, puis du côté grec ensuite, se sont faites très progressivement, de façon très prudente d'ailleurs et assez maligne, pour voir si à un moment il y aurait eu un blocage. Et puis comme il n'y a pas eu de blocage, les choses se sont accrues progressivement entre 2018 et maintenant. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'il y a un deuxième paramètre dans l'équation d'Erdogan, à mon avis, qui n'est pas un paramètre géopolitique. Jusqu'à présent, on parle de géopolitique, finalement, les intérêts turcs face aux intérêts grecs, et le positionnement des puissances les unes par rapport aux autres. Un jeu, finalement, assez classique, qui est quand même un retour vers le passé, quand même. Mais il y a, à mon avis, un deuxième aspect, qui est l'aspect idéologique. Erdogan pousse l'idéologie des frères musulmans. L'AKP, c'est sa logique. Lors des printemps arabes, il a été extrêmement actif pour développer les réseaux fréristes partout en Méditerranée, et il s'est de facto opposé, bien sûr, aux monarchies du Golfe qui voient dans les frères musulmans le risque majeur. Et c'est pour ça qu'on a un axe islam politique, si je puis dire, entre le Qatar, la Turquie et l'Iran, de facto, et un axe anti-islam politique, anti-frères musulmans, avec les monarchies, donc l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn, l'Égypte, bien sûr, le général Sissi a repris le pouvoir aux frères musulmans, et on retrouve cette coupure d'ailleurs en Libye.
En Libye, oui, absolument, donc, ce sont les mêmes axes d'alliance, même si c'était un peu exagéré de le dire comme ça.
Oui, finalement pas si exagéré que ça, puisque finalement en finale, les uns et les autres envoient de l'argent, beaucoup pour le Qatar, et des armes, notamment pour les Émirats. Donc on a là une logique qui est plus tout à fait une logique complètement géopolitique, et j'allais dire complètement rationnelle, complexifie un peu l'équation. Maintenant, pour répondre à votre question sur les forces armées, Bien sûr que les marines occidentales, et notamment de la France, de l'Italie, et je ne parle pas des États-Unis, sont largement au-dessus, sur le plan des capacités militaires, des autres marines présentes en Méditerranée, notamment en Méditerranée orientale. Il se trouve que les États-Unis ont décidé délibérément d'alléger leur dispositif très considérablement, et c'est pour ça qu'il y a un espace de manœuvre géopolitique et militaire pour tous les autres. Les Russes, eux, ont décidé d'être beaucoup plus présents, ils le sont, et ils ont montré leur capacité, mais qui est plus une capacité de nuisance, mais ils ont une capacité de nuisance très forte. Aujourd'hui, ces acteurs, et notamment la Turquie, est forte de la faiblesse des autres. À partir du moment où tout le monde prêche une désescalade par principe, évidemment, ça laisse de l'espace à ceux qui veulent aller chercher un peu les limites et agrandir leur périmètre d'action.
Didier Billon, l'OTAN et l'Union européenne sont un peu en retrait quand même. Est-ce qu'ils jouent un rôle modérateur dans cette affaire et, notamment l'Europe qui est actuellement présidée par l'Allemagne, qui a beaucoup de ressortissants turcs sur son territoire?
Je ferai simplement une toute petite remarque sur l'analyse de mon prédécesseur, parce que j'ai pour le moins une nuance qu'il faudrait peut-être approfondir pour savoir si on est véritablement en désaccord d'ailleurs. Tout à fait d'accord pour dire que depuis 2010-2011, c'est-à-dire depuis les révoltes arabes, les Turcs, les responsables turcs, après avoir beaucoup hésité, ont tenté de constituer un axe à partir de la mouvance des frères musulmans. Ça, c'est tout à fait exact. Alors, c'est un échec total, d'ailleurs, de ce point de vue, parce que ni en Tunisie, ni en Égypte, bien évidemment, cela a été rappelé, ni même en Syrie, eh bien, les frères musulmans n'ont réussi à s'imposer sur le champ politique pour de multiples facteurs. Pour autant, je ne mettrai pas tout à fait l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement de Monsieur Erdogan, dans le même sac, si vous me passez l'expression, que les frères musulmans, parce que l'islam politique turc a une véritable trajectoire depuis les années 70, fin des années 60, début des années 70, qui est radicalement différente de celle des frères musulmans, qui est vraiment une construction politique dans les mondes arabes. Mmh. Donc là, il faut pas tout amalgamer, même si conjoncturellement et pour des raisons politiques, il peut y avoir convergence entre cette mouvance des frères musulmans et la képé de M. Erdogan. Alors, quant à l'Union européenne et à l'OTAN, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elles sont sur le retrait. Peut-être pourraient-elles faire plus, mais il faut bien comprendre que et l'Union européenne et l'OTAN sont divisés dans leur perception, leur appréciation du rôle, de la fonction et de l'importance de la Turquie. Mmh. Pour aller très vite, et pardonnez-moi si je schématise, mais au sein de l'Union européenne, nous avons bien constaté au cours des dernières semaines qu'il y avait deux options. Celle qui est incarnée par Monsieur Macron, qui est pour l'établissement d'un rapport de force, il a dit, un bras de fer, il faut établir un bras de fer.
C'est-à-dire, on teste les limites, donc il faut montrer les limites.
Voilà, c'est ça, exactement. Mmh. J'ai même parfois des inquiétudes parce que j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères, par habitude, Monsieur Le Drian, qui lors d'une émission chez vos confrères de France Inter il y a deux semaines, a parlé à trois reprises de la nécessité de représailles à l'égard de la Turquie. Les mots ont un sens quand même. Moi, je ne suis pas un militaire, mais enfin quand même, représailles, ça n'évoque pas quelque chose de très positif. Et puis, à l'inverse, l'Allemagne, en la personne de Madame Merkel, joue, elle, le jeu de la négociation, de la médiation. Alors on me dit, certains disent, oui, mais c'est un jeu où ils se répartissent l'euro. Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a une véritable divergence de perception. La grande question, c'est le Conseil européen qui va se tenir dans quelques jours, permettra-t-il de parvenir à une position commune? Oui. Quant à l'OTAN, je vais laisser le spécialiste s'exprimer, mais je crois, pour aller vite là aussi, on l'avait vu à propos de la crise libyenne au mois de juin dernier, où un navire français a été illuminé par un navire turc. La France a demandé une commission d'enquête à l'OTAN. On a bien compris qu'il y avait quand même des divergences d'appréciation sur les mesures à prendre.
Général Jean-Paul Paloméros, sur l'OTAN, est-ce que les États-Unis, puisque c'est quand même la base de cette alliance, ne bougent pas vraiment pour préserver notamment leur base aérienne d'Incirlik en Turquie? Il y a 5000 hommes là-bas et des têtes nucléaires entreposés, les États-Unis et l'OTAN ne veulent pas fâcher la Turquie, qui est membre de l'OTAN?
Oui, l'attitude des États-Unis, enfin de l'administration Trump vis-à-vis de la Turquie, est un peu trouble. C'est pas le seul domaine, si je puis me permettre. Mais D'un côté, il y a un peu le bâton, hein, en quelque sorte, effectivement, des mots. L'arrêt, par exemple, de l'export du projet, du programme F-35, hein, un chasseur de dernière génération, dans lequel la Turquie avait de gros intérêts industriels et des intérêts militaires opérationnels. Et puis, de l'autre côté, on a l'impression qu'effectivement, les Républicains sont très, très gênés derrière Trump pour prendre une position un peu radicale, en se disant finalement que la Turquie, c'est quand même un maillon d'une chaîne et que faire sauter ou pousser trop fort vis-à-vis de ce maillon, ça pourrait entraîner aussi des effets de bord. Derrière, il y a évidemment les aléas et les conséquences de la crise syrienne qu'on a tendance à oublier. Mais elle a marqué non seulement les esprits, les Russes sont revenus dans le jeu, incontestablement, ils se sont repositionnés au plan stratégique. Et c'est ça qui doit, à mon avis, qui devrait en tout cas préoccuper l'OTAN. C'est comment faire en sorte que cet espace géostratégique qui est autour de la Méditerranée demeure un espace de paix, de sécurité, et continue à être un espace de prospérité, ce qui était l'essence même de la création de l'OTAN en 1949. Et je crois qu'en l'an dernier, alors que l'OTAN passait ses 70 ans, tous ces sujets-là ont été mis un peu sous le couvercle. On a prétendu que l'Alliance pouvait continuer à s'élargir, puisque la Macédoine du Nord, puisque c'est son nom maintenant, va rejoindre l'OTAN après le Monténégro. Donc, l'impression que cette alliance continue à s'élargir. Mais moi, j'ai le sentiment qu'elle s'affaiblit aussi. Qu'elle est en train de s'affaiblir parce qu'elle n'a plus cette direction politique qui fait l'essence même de l'alliance. C'est avant tout une alliance politique et aussi une alliance militaire, bien entendu.
Il est en train d'arriver à l'OTAN, ce qui est arrivé à l'Union européenne, Didier Billon.
Comparaison n'est jamais raison, mais oui. L'élargissement sans limite aboutit à l'affaiblissement de facto pour des raisons politiques que vous venez de décrire.
Ouais. Amiral Pascal Hausser, j'aimerais revenir parce que on a parlé beaucoup des discours, des mots, qui ont été prononcés par la France, par la Grèce, par la Turquie. J'aimerais parler des actes. Comment est-ce qu'on interprète la vente par la France de Rafale à la Grèce? Alors même s'il y a une longue tradition d'achat d'avions français par la Grèce, c'est quand même un message. Lequel, selon vous?
Alors, moi je pense qu'il y a trois. Bien sûr qu'il y a un message politique, à la fois des Français qui proposent leur soutien militaire à la Grèce, et à la fois de la Grèce qui en quelque sorte renvoie l'ascenseur d'un soutien politique en disant je vais vous acheter des avions, je sais que c'est bon pour vous politiquement et c'est bon pour votre industrie. Donc il y a un intérêt. D'abord, la Grèce a toujours été, j'allais dire, un client potentiel du Rafale. Il fait partie des pays européens susceptibles d'acheter du Rafale, comme les Belges, comme les Suisses, etc. Donc il y a un intérêt évidemment économique dans cette affaire. Il y a un intérêt politique, comme je viens de l'évoquer, de soutien mutuel politique, puisque ce genre d'achat évidemment a une symbolique politique extrêmement forte. Et puis il y a un intérêt militaire, mais là le général Palomero c'est mieux placé que moi pour en parler.
Il a très envie d'en parler, on va lui donner la parole.
Oui, c'est un avion de quatrième génération qui a été déployé sur des théâtres d'opérations très nombreux avec beaucoup de succès. Donc c'est clair que l'armée de l'air grecque avec cet avion va avoir une supériorité aérienne à la fois en défense aérienne, à la fois en reconnaissance et en capacité de bombardement que n'aura pas l'armée de l'air turque, qui est d'ailleurs par ailleurs a été assez décapité par les purges d'Erdogan. Je voudrais simplement dire un point pour revenir sur le sujet précédent, si vous le permettez. Oui, les Turcs ont une position extrêmement stratégique, à la fois au sein de l'OTAN, ils tiennent vis-à-vis de la Russie, ils tiennent les détroits turcs, ils sont le front sud-est de l'OTAN, et vis-à-vis de l'Europe, ils ont notamment un poids terrible, très important dans les Balkans, et puis il y a notamment le phénomène migratoire qui est très important. Donc Erdogan en a parfaitement conscience, et il est tout à fait légitime qu'il en joue, et qu'il essaye de défendre les intérêts de son pays, et notamment, on ne sortira pas de cette crise gazière sans trouver une solution une réponse à la question comment intégrer les Turcs dans le tour de table d'exploitation de cette manne qui attire tout le monde. Il n'empêche que aujourd'hui le vrai risque, à mon avis, c'est qu'il y ait un effet d'emballement et un risque de méprise, une mauvaise analyse du côté turc qui a pris qui aurait le sentiment qu'en face, qui pourrait tout se permettre, en quelque sorte, et une espèce de surréaction de l'autre côté assez inattendue. Et là, on a un risque de méprise, d'emballement, et qui peut aller assez loin. D'autant plus que, et je reviens sur cette idée, autour d'Erdogan, les militaires turcs, toute l'élite de l'armée turque était absolument remarquable. À l'OTAN, on savait que les généraux turcs étaient de très très bonne qualité.
Tout ça a été purgé.
Cette élite a été décapitée. Mmh. Ils sont quasiment tous en prison. Donc vous avez une armée d'abord de gens moins compétents, probablement moins formés, et puis qui sont beaucoup plus dans une logique de cours, parce qu'il ne faut pas déplaire à Erdogan, sinon vous vous retrouvez vite en prison. Et ce genre de situation me semble très délicate et plutôt dangereuse, parce qu'une étincelle, une incompréhension peut dégénérer assez vite.
Alors, général Jean-Paul Paloméros, vous avez été également le chef d'état-major de l'armée de l'air. Je reviens sur ces ventes d'armes, sur ces ventes de rafales. Est-ce que ça peut changer l'équilibre des forces entre la Turquie et la Grèce? Est-ce que ça peut changer des choses sur le terrain?
Ça va incontestablement crédibiliser l'armée de l'air grecque, qui est une excellente armée avec laquelle l'armée de l'air française entretient les meilleures relations du monde. Les Grecs, l'armée de l'air grecque a volé sur des avions français depuis de longues dates, sur les Mirage 3, sur des Mirage 2000. Et maintenant, mais ce qui est important là dans cette vente, c'est que c'est le premier pays de l'Union européenne, le premier pays de l'OTAN qui acquiert le Rafale, si vous voulez. Et ça donne un signe assez fort, notamment pour l'Union européenne, se dire nos intérêts communs passent aussi par ce type d'acquisition, alors que bien d'autres pays européens vont chercher plutôt du matériel américain, voire d'ailleurs, pour la Turquie, du matériel russe, comme on l'a dit. Donc je crois que c'est un bon capacitaire pour les Grecs, ils connaissent très très bien le Rafale, ils savent ce que le Rafale va leur apporter, et c'est un outil dissuasif. Je dirais dissuasif et crédible vis-à-vis de la Turquie.
Est-ce que Didier Billon, et il nous reste assez peu de temps, mais enfin, je pense que vous allez pouvoir nous analyser tout ça. Est-ce que ça peut davantage lancer les Turcs vers l'achat d'armes et d'avions russes, notamment?
La balle est un peu dans notre camp, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire qu'il a été rappelé tout à l'heure qu'il y avait eu déploiement au mois de juillet 2019. De systèmes de missiles antimissiles S-400 russes sur le sol turc, mais que ce n'est qu'une partie des systèmes qui a été déployée et que pour l'instant ils ne sont pas activés. Mon analyse, c'est que les dirigeants turcs se servent de ce déploiement comme d'un instrument politique. Alors c'est très déplaisant. Mais ça, c'est l'habitude des négociateurs turcs. Ils tirent sur la corde jusqu'au dernier moment, puis au dernier moment, on peut s'entendre, enfin, on peut l'espérer. Mais c'est très préoccupant, cette affaire de S-400, pour un pays qui est membre de l'OTAN, je n'y reviens pas. Et pour autant, j'insiste sur le fait que ça fait maintenant 14 mois, et que ça n'est toujours pas activé, que la totalité des systèmes n'est pas déployée. Puis quand même, un dernier mot, peut-être une petite tonalité optimiste, c'est qu'il y a eu hier une visioconférence entre Madame Merkel et Monsieur Erdogan, son ministre des Affaires étrangères, son ministre de la Défense et le chef des services secrets turcs. C'est donc une atmosphère depuis le week-end dernier qui est plutôt à la désescalade. Je reste évidemment très prudent. Pour toutes les raisons qui ont été évoquées, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle étincelle, d'une nouvelle montée des tensions, mais à l'approche du Conseil européen qui va se tenir
dans une semaine,
eh bien, il y a plutôt une volonté à ce jour, en dépit des tournures de phrases un peu violentes qu'utilisent certains, il y a plutôt une volonté des escalades. C'est peut-être la bonne nouvelle du jour, tout en restant infiniment prudent.
Merci Didier Billon, merci à vous également, général Jean-Paul Paloméros et amiral Pascal Hausseur, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet RFI.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio à la rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit, avec Philippe Lecaplain. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Et bonjour chez vous. Envie d'une